Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Clint Me, de The Walking Dead, la fin, The Walking Dead.
C'est pas facile.
L'ultime
Clémentine
saison,
édition, voilà, la fin,
les morts
voilà,
qui marchent.
Ça. Highlanders, Photographs et la chronique de, enfin le reste du programme vous connaissez, hein, donc la chronique de Jeremy Clitskin, le com des coms, etc. Enfin en même temps je dis etc. À chaque fois en même temps il y a plus d'etc. parce que voilà il y a plus de minute culturelle, on en est plus là. Enfin,
ah non, ne me parle pas de la minute culturelle. c'est un regret. J'espère que ça va revenir un jour.
Peut-être un jour. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris, Camille Suard. Bonjour Camille.
Hello.
Chronique, je peux pas parler en inclusif chroniqueur comment elle fait Victoire
la chroniqueuse ou sinon
auditoriste, elle dit auditoriste, je pourrais faire chroniqueuriste.
Ouais, pas mal, écoute, ça me va.
Chroniqueuriste. Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Corentin Benoît-Gonin, des Croissants, bonjour Corentin.
Salut Erwan.
On commence donc avec toi Patrick, parce que tu as plein de choses. Voilà,
oui,
tu
on va essayer de faire rapide, parce qu'on a un programme
tu vas nous parler
chargé.
De Sony.
Allez, on va parler Sony ce matin, des news. Alors côté PlayStation VR, moi ça m'intéresse toujours, comme tu le sais, la réalité virtuelle. On a l'annonce d'une date de sortie pour un accessoire que je vais essayer, que j'ai envie vraiment d'essayer pour compléter ma panoplie PlayStation VR, c'est le 3D Rodder. En fait, c'est un petit accessoire qu'on met à ses pieds, sur lequel on pose ses pieds, qui nous permet de nous déplacer dans les jeux. En fait, ça permet dans les jeux en réalité virtuelle. On sait que c'est un des problèmes en général liés aux accessoires avec le PS Move qui n'a pas de stick analogique, des choses comme ça. C'est pas toujours facile de se mouvoir. C'est souvent même ce qui déclenche un mal de cœur quand on joue. Donc là, cet accessoire peut-être régler ça. En tout cas, il va faciliter les déplacements dans des environnements de réalité virtuelle. Il sort le 17 juin en version PlayStation 4. Il a une licence officielle d'accessoires Sony.
C'est le truc qui s'attache aux pieds, là.
Tu mets tes pieds dessus et tu peux bouger comme ça.
C'est genre une Wii Fit.
Non. Ça, c'est comme ces trucs. Ouais, c'est une boule avec une plateforme autour, là, pour le yoga ou des trucs comme ça.
Non.
Alors en fait, le mais truc, non. C'est que c'est déjà sorti sur PC. Il y a une version qui existe sur PC qui est compatible avec les jeux PC classiques et les jeux réalité virtuelle sur PC.
Et là, donc, on a. Des retours d'utilisateurs.
Moi, je l'ai jamais essayé. Je crois que ça marche plutôt bien.
Je peux dire que
je
crois pas ou pas.
Moi, j'ai envie d'essayer. Je suis vraiment curieux du truc parce que encore une fois, ça peut vraiment, pour moi, ça peut régler un de ces vrais problèmes qu'on a aujourd'hui, notamment le PSVR. Mais si, sur le déplacement, sur l'ergonomie, on ne sait jamais trop comment se déplacer. Je trouve que le fait d'actionner un stick te sort en général du côté immersif de ce que t'envoie ton image de tes yeux à toi, en fait, via le casque. Là, je pense qu'avoir une action par tes pieds peut permettre d'oublier le fait que t'as à te déplacer. Ça peut devenir plus spontané. Ça sort en juin, ça coûte un petit peu plus de 100€. Moi, je vais l'essayer. Je suis curieux. Et puis, tout ce qui a trait à la réalité virtuelle, tout ce qui peut faire avancer le schmilblick sur la réalité virtuelle,
c'est tout le truc des interfaces haptiques donc qui vont permettre de faire des retours des univers corps et tout ça.
Ah, c'est autre chose.
Il
y a pas de retour, enfin il y a pas de
c'est tout le problème, c'est que ce qui crée la
tu vas trop vite Erwan, ça c'est pour une génération ou deux.
Ce qui crée la dissonance et donc le mal de mer, c'est la différence entre les mouvements de ton avatar et ce que tu vois avec tes yeux. Donc le fait que tu dois avancer en appuyant du bout de ton pied, ça va pas te faire te faire marcher réellement.
Non, mais ça va. Tu poses tes pieds dessus et du coup, je pense que ça devient plus spontané dans tes déplacements. Ouais. On va l'essayer. Je pense qu'on en parlera peut-être même ici. Moi,
c'est une bonne piste pour accentuer le côté immersion, c'est sûr.
C'est vrai.
Ça dépend du retour aussi.
Mais bien sûr, de comment ça se passe. Encore une fois, je ne l'ai pas essayé. L'objet me semble intéressant. On en reparlera. En tout cas, voilà, ça peut être une étape de plus.
C'est d'ailleurs pas la première fois qu'on voit ce genre de gadget. Ouais. Il y en avait un qui t'attachait là sur les hanches et tu marchais sur une plateforme glissante.
Là, c'est plus compliqué à la maison, ça.
Bah oui, et puis il y a une autre version que j'avais vue où tu te mettais sur une chaise et on t'attachait des trucs aux pieds. En fait, tu bougeais tes pieds comme ça dans le vide pour se déplacer dans les jeux vidéo.
Certainement meilleur, mais plus compliqué à mettre en place dans son salon.
Je sais pas, il a l'air compliqué ton truc.
Mais on verra. C'est pas mal dans les salles d'arcade.
Non, après tu le poses sous ton bureau ou à côté de ta bécane, ça peut le faire.
Je pense que le mieux restera quand même.
On va essayer. Bon,
je pense que le mieux restera le Vive quand même, qui t'enferme dans un environnement, certes,
oui,
mais au moins
mais
tu te déplaces.
Il faut la place.
Et l'argent aussi.
Il faut c'est un budget.
C'est deux portes d'entrée différentes.
Ça peut démocratiser. Bon,
la VR est un budget.
Un peu plus de 100 euros. On essaiera l'accessoire. Je reste chez Sony avec... C'était un serpent de mer depuis des années. On parlait depuis longtemps de laisser la possibilité un jour aux gens de pouvoir changer leur ID PSN. Vous savez, ce truc qu'on a tous choisi il y a pas loin de 10 ans maintenant. Alors certains le regrettent parce qu'ils ont mis des noms complètement improbables.
Darth Vader 67.
Des choses comme ça qui traînent depuis des années. Et il y a très longtemps Sony disait qu'un jour peut-être ça se ferait. Les communautés tapaient du poing. Il faut vraiment qu'on puisse changer. Donc ça y est, depuis ce matin, aujourd'hui, là, ça y est, on peut le changer. Donc c'est... Alors les modalités, c'est que c'est gratuit une fois et ça devient payant. Une dizaine d'euros ensuite pour les non-abonnés Gold. Gold, non, c'est Plus.
C'est Xbox.
Chez Sony et 5 euros pour les Plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça devient possible. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on apprend qu'a priori, ça pose des soucis de compatibilité avec certains jeux. Alors, il y a toute une liste de jeux qui sont recensés avec des soucis d'accès au contenu, de compatibilité avec les créations des joueurs ou de contenu additionnel. Certains jeux, a priori, la date de point de mire, c'est avril 2018. Tous les jeux faits après cette date-là sont compatibles, ne posent pas de problème. C'est ce qui a été fait avant avril 2018. J'imagine au moment où Sony a dit on va mettre ça en place, préparer les jeux maintenant, et ben ça pose a priori des soucis. Donc j'ai envie de dire peut-être attendez que les jeux un peu plus anciens soient patchés, soient mis à jour, que soient préparés pour être compatibles, parce qu'à priori on peut perdre.
Enfin, est-ce qu'ils vont l'être parce que tu prends un jeu, je sais pas
c'est pas loin hein, avril
les
2018.
Les jeux Media Molecule là avec leur
oui
leur
bien sûr oui ils datent un petit peu
machin,
hein, donc
t'as fait tes créations de monde et tout ça, mais dans leur base de données à eux ça doit être ton ID PSN.
Ben, c'est de le télécharger une fois et basta en fait.
Donc ça
ils vont pas mettre à jour je pense.
Ça pose la
tous les jeux THQ tous.
Et puis ça pose cette problématique d'avoir un identifiant, et c'est en dehors de tout ça, de ce problème de tes accès à tes contenus, etc., qui sont relatifs à un compte. C'est toujours cette problématique. Et là, je termine sur une annonce de cette semaine sur un service de cloud gaming. Alors, on parle en général de jeux high-tech, d'accès à des nouvelles technologies, à des jeux très très performants à distance
sur
des machines.
Mais, vu que tu nous en parles.
Et oui, je vais vous parler du service AntStream, ça s'appelle. AntStream. Donc, c'est un service. Donc de cloud gaming, mais qui est complètement dédié au rétro, qui va lui permettre d'accéder à des jeux, en gros, des années 70, 80, 90. Alors, ce service, il lance une campagne Kickstarter avec un objectif de $65,000 pour le 10 mai prochain. Donc, on va voir ce que ça donne. Grosso modo, ils annoncent que même s'ils n'y arrivent pas, ils devraient quand même se mettre en ligne,
super.
Se lancer.
Rien de tel pour ne pas avoir l'argent. Hein.
A priori,
je
pense que c'est avant tout une histoire de sécurisation de droits. Je pense qu'eux, aujourd'hui, leur combat, c'est d'avoir des licences de jeux, d'acquérir le plus de jeux de licences officielles de titres. A priori, ils vont lancer 400 jeux. On trouve du jeu Amiga, du jeu Commodore, il y a une liste sur leur site, du jeu d'arcade, avec quelles vont être a priori quelle va être la valeur ajoutée de ce service, parce que vous me direz il y a déjà beaucoup de jeux qu'on peut attraper ou sur de l'émulateur ou des choses
comme
ça. Le
téléphone peut faire fonctionner tous ces jeux en fait.
On a beaucoup de jeux autrement, sur d'autres manières. Donc eux, ce qu'ils mettent en avant, ce sont des systèmes de médailles en solo et puis surtout des classements mondiaux. Ça va être une sorte de communauté pour se challenger
des
jeux d'arcade se challenger là-dessus. On parle, je crois que c'est pas officiel, d'un abonnement à $10 environ par mois.
Ouais.
Et dans les...
What ?
On est en ces eaux-là, a priori.
$10 par mois ?
C'est ce qui se dit, hein. Je crois que c'est pas officiel pour l'instant. C'est
les
estimé.
Mecs, ils ont méfus. Enfin, c'est
pas la peine, quoi. Et dans les titres, moi j'ai noté...
C'est aussi cher que Netflix ?
Du Switchblade, du Renegade et du Pinball Dreams. Voilà, on a de l'Amiga, du Commodore, tout ça. Ça va être du Midnight Resistance, du Metal Slug, on a des jeux SNK.
En tout cas, dans le tas. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas besoin de rack immense dans les serveurs.
Ça va être facilité. Alors, a priori, c'est les gens derrière ça, il y a quand même des pointures. Parce qu'il y a Ian Livingstone, hein, qui est un des grands du jeu vidéo en Angleterre. Et puis l'ancien.
Monsieur, les livres dont vous êtes le héros.
Et voilà, le créateur, évidemment. PDG.
Steve Jackson, Ian Livingstone.
Un des anciens PDG de Sega Europe. Donc, il y a des pointures derrière qui, a priori, font tout le travail pour sécuriser les droits.
Enfin, Sega Europe, ils ont tenté de transformer leur jeu en free-to-play il n'y a pas si longtemps sur mobile. Ça a été un échec.
Et je lis mes notes, je vois qu'a priori, ils auraient sécurisé les droits pour 2000 titres. C'est-à-dire qu'a priori, la bibliothèque va augmenter. Alors vous me direz, moi, le problème que ça pose, alors évidemment, c'est un accès à plein de jeux, ça c'est toujours intéressant, dans des versions rétro qui ne sont pas forcément faciles d'accès, etc. aujourd'hui, tout ça, ça va être plus simple d'utilisation. Pour moi, le vrai intérêt de ce genre de proposition, ça va être une éditorialisation des contenus. Moi, dès qu'on parle de rétro, et à chaque fois qu'on a parlé de compilation ici, ou d'accès à des anciens jeux, moi, ce qui me soucie vraiment, ce qui m'intéresse, c'est une éditorialisation. C'est, pourquoi pas, faire des interviews des gens qui ont créé les jeux, recontextualiser ces jeux à chaque fois. Ça, je ne sais pas si ça va être au programme. Pour moi, ça serait vraiment quelque chose
ça ne le sera pas, Patrick.
Qui justifierait... Non, mais c'est vrai. Là, moi, dans ce que j'ai vu, il y a des très beaux titres. Des titres sur des micro 8 bits qui sont hyper daté et dont l'intérêt historique est vraiment valorisé si tu remets en contexte, si tu expliques pourquoi ces jeux, pourquoi ces gens, comment ils les ont fait. Donc on verra, pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus. J'espère qu'il y aura un souci de contextualisation, d'éditorialisation de tous ces jeux, parce que c'est un vrai réservoir de titres et dont certains ont plutôt bien vieilli, donc ça peut être un vrai plaisir en quelques clics de se replonger dans ces jeux-là. C'est une affaire à suivre.
Corentin.
Epic continue. On en avait déjà, enfin, vous en aviez parlé dans les derniers épisodes de Silence on joue de récupérer des exclus. En l'occurrence, Borderlands 3 sera sur l'Epic Store.
Ah, ils font.
Et
six mois plus tard sur Steam.
Ouais, 6 mois. C'est une exclus temporaire, absolument. D'accord. Et du coup, ce qui devait arriva. Review bombing sur Steam, c'était déjà arrivé à Metro à l'époque. Et là, grosso modo, tous les utilisateurs ont décidé de mettre un avis négatif sur Borderlands 1 et 2 pour faire baisser la note. Sauf que Valve avait déjà réfléchi au problème depuis un moment pour éviter justement ce genre de méconvenus, notamment de déconvenus dès que soit donc il y a ce genre d'annonce d'exclusivité ou bien quand un jeu est un petit peu trop engagé dans certaines valeurs qui plaisent pas aux joueurs, un petit peu conservateur sur certains points. Ils voulaient éviter justement que il y ait un impact sur la note qui est affichée quand vous cherchez dans le catalogue qui est écrit, vous savez, très positive, moyennement positive, pas positive. Et là, le 6 avril dernier, ça a été le cas, le système de Valve a fonctionné et 4000 avis n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la note sur la page de Borderlands 2. Alors, ils ne sont pas comptabilisés dans la note, mais on peut les lire, ils sont en dessous, on peut les lire. Et évidemment, c'est que des ouin ouin ouin, c'est sur Epic, c'est pas sur Steam, qu'est-ce que vous faites, c'est pas bien tout ça. Et ça, c'est important parce que c'est vrai que c'est dégueulasse. Le review bombing, c'est dégueulasse. Il y a plein de développeurs, notamment dès qu'ils font un geste un petit peu engagé ou politique, se font laminer pour des raisons bêtes. Dès qu'on essaye de mettre une héroïne au lieu de mettre un héros dans un jeu, il y a un review bombing qui tombe. Mine de rien, je pense qu'il y a vraiment des consommateurs qui arrivent sur le catalogue de Steam et qui voient note pas positive et qui du coup ne prennent même pas la peine d'aller lire le jeu. Donc
surtout
c'est
pour
une bonne chose.
En fait, c'est surtout important pour effectivement les développeurs indés qui vont balancer leur premier ou leur deuxième jeu, donc ils vont être inconnus de la plupart du monde. Et c'est vrai que, par exemple, on peut voir arriver dans les tendances ou les trucs comme ça des jeux qu'on ne connaît pas et voir les extrêmement positifs, très positifs, plutôt positifs, etc. Et puis ça peut aussi inciter à voir. Moi, je sais que aujourd'hui, un des jeux dont on va parler, Highlanders,
Christophe Lambert.
Oui, c'est ça.
Vous n'avez pas commencé. Vous n'allez pas. Je n'ai pas prononcé le H. J'ai dit Highlanders. J'y ai joué parce que je l'ai vu apparaître dans les tendances. J'ai vu directement les opinions très positives ou extrêmement positives. Mm-hmm. Et là, je me suis dit, ça vaut le coup de regarder ce que c'est.
Puis je sais pas comment fonctionnent tous les algorithmes de Steam, mais il y en a qui doivent remonter grâce à ça aussi, si jamais la note est très positive, le bouche à oreille fonctionne, ce genre de choses. Et c'est vrai que, notamment en période de solde, moi aussi, je regarde le catalogue et je regarde qu'est-ce qui est très positif, même si c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à plein de jeux et que je fais, celui-là, même s'il a une note passable, il me semble que j'en ai entendu parler, je vais jeter un œil. Mais pour plein de gens, je peux comprendre que ça peut être un guide d'achat important.
Pour resituer, donc le review bombing là, sur ce jeu, c'était sur le 3 du coup ?
Sur le 1 et le 2.
C'est ça, oui, c'était du rétro. Pédalage sur les anciens, on est bien d'accord.
C'était déjà le cas sur Metro, pareil,
on tape sur les anciens
pour punir
le prochain.
Bref, c'est débile.
On reste chez Epic.
Ouais, Fortnite qui révèle, donc c'est, enfin, qui révèle, qui a mis en place ses vannes de résurrection. Alors, j'ai oublié le nom exact, c'est Reboot Vannes en anglais. Alors, c'est quand un allié tombe, on récupère sa carte sur son corps, hein, et on la porte aux vannes. Et l'allié réapparaît ensuite et peut rejouer avec son allié. C'est pas innovant, ça. C'est cool.
Je trouve
cette mécanique absolument révolutionnaire. Ce serait bien que les autres s'en inspirent un petit peu, en tout cas.
J'aimerais bien qu'Apex fasse ça.
Apex, ce serait pas mal que tu le fasses. Bref, oui, on l'a dit en antenne, Erwan, mais c'est vrai que Fortnite a une énorme histoire de, on va dire, dommage appuyé aux autres jeux. Voilà. Ça a été déjà le cas envers Apex, notamment grâce à son système de ping, qui est extrêmement intelligent. On en avait parlé quand on avait parlé d'Apex. C'est vrai qu'il est vraiment bien fichu, hein, ce système de ping, et donc Fortnite l'a réutilisé. Fortnite avait aussi copié d'autres jeux. Hein, je crois qu'il y a certains éléments, notamment de, comment ça s'appelle, Sea of Thieves, qui ont été récupérés, je ne sais plus exactement
lesquels. Puis à l'origine, Fortnite Battle Royale,
voilà, la base.
Donc, inspiration d'un film, évidemment.
On continue hein, à s'inspirer, sachant que ça, en l'occurrence, les vannes en question, c'était un secret de Polichinelle. On les a vus apparaître très peu de temps après la sortie d'Apex. Ils étaient apparus dans certains bugs, ils étaient dans le code, tout ça. Et bah voilà, ça se confirme. Donc, on va bientôt. Je crois que c'est déjà le cas d'ailleurs. On peut déjà ressusciter ses copains en cas de chute d'entre eux. Mais il faut quand même reconnaître que Fortnite apporte énormément de nouveautés aussi de son cru au fur et à mesure des saisons, qu'ils ont un vrai dynamisme de mise à jour, ce qui fait que les gens restent, et ça il faut le reconnaître aussi. Certes, ils s'inspirent énormément des autres jeux, au final c'est pas plus mal aussi de s'inspirer. Parfois il faudrait peut-être être plus ouvert sur l'inspiration. Oh, Apex, on fait vraiment du bon boulot, on a décidé de récupérer cette idée, bravo les gars, merci pour
De fait, ils arrivent à rester dans leur position malgré tous les concurrents depuis des mois et des mois qui sortent, et voilà, même Apex qui a fait un très bon départ et qui a égratigner un petit peu la forteresse Fortnite, et ben non.
Il a un petit peu trébuché avec son season pass qui a bien déçu, et son pass de combat qui a bien déçu, et son apparemment il est encore un petit peu il a un des problèmes de triche encore un petit peu avec en ce moment.
Le comme des comme de la semaine dernière où nous avons parlé de Sekiro et Yoshi's Crafted
Islander.
Ça va. Alors c'est assez amusant parce que avec Franz on avait parlé un peu de cette pas polémique de cette discussion qu'il y avait sur l'éventualité de mettre un mode facile dans Sekiro, est-ce que ça posait comme problème ou pas, et donc on a évoqué en fin d'émission en fin de chronique de Sekiro ce petit point, et évidemment ça a été le sujet majeur de discussion dans les forums de Silence on Joue. Je vais juste dire deux avis hein, évidemment contraires. Avec Cytoplasme, j'estime comme d'autres qu'un jeu n'a pas à être tout public. C'est comme de demander à une version standalone d'un MMO pour les gens qui ne veulent pas jouer en ligne, ou enlever les scènes d'horreur de Resident Evil pour les âmes sensibles. L'équivalent cinématographique serait de demander une version qui ne fait pas peur de Shining, ou en littérature exiger de Proust une version en un seul volume de La Recherche du Temps Perdu pour les gens qui n'ont pas le temps de lire. Évidemment, Jérémy Kletskin, hein, donc notre chroniqueur jeu de société qui lui répond, c'est justement la démonstration que le jeu vidéo est différent. Il est interactif, l'expérience peut s'adapter au joueur autant que le joueur s'adapte à l'expérience. C'est évidemment aux auteurs de chaque jeu de décider ce qu'ils rendent possible, mais il n'est pas profane de couper le son, ou de changer les contrôles, ou d'ignorer certains modes de jeu. Il est possible de jouer à Kingdom Hearts ou Dark Souls sans en comprendre ou même s'intéresser à l'histoire. Est-ce raisonnable de commencer un livre ou de regarder un film en acceptant un tel postulat? Est-ce que les From Software ne sont qu'une proposition de difficulté? Est-ce que le jeu se résume à ce que les fans en disent, ou est-ce qu'il y a aussi un univers à découvrir indépendamment de l'apprentissage des patterns? Les Dark Souls me sont tombés les mains après 20 minutes, pourtant j'ai déboursé une sacrée somme en version collector. Je ne ressens aucun plaisir à passer 3 heures sur un boss. Ces univers m'attirent énormément, mais je n'en apprécierai jamais qu'une infime partie. Le reste est caché derrière un large précipice que je ne franchirai jamais. C'est super triste, en fait.
Ah, ça, la difficulté, oui.
Mais je suis d'accord avec Jérémy, quand même, sur ce point.
Quand la discussion est posée, parce que cette discussion sur le mode facile de Sekiro est vite partie dans les tours, on imagine. Hein,
mais c'est... partout, c'est insupportable. Ils m'ont saoulé, là, tous.
À relier au review bombing de Borderlands, c'est un peu la même, on va dire, psychologie gamers qu'on va qui part très vite dans
Erwan, là, j'ai trouvé un peu expéditif sur Starlink à la fin des jouets Starlink. J'ai trouvé un peu expéditif la semaine dernière. Bon, voilà, bon, on va pas revenir dessus.
Je c'est une bonne nouvelle pour toi, Patrick. Tu vas pouvoir tous les acheter pour rien.
Bah
c'est
ouais, super. Mais non, je trouve que c'est ouais, j'aime bien le jeu. Moi, j'aime bien les personnages. Il y a Fox, tout ça dedans. Bon, c'est un peu expéditif. Voilà, c'était mon commentaire à moi de la semaine dernière que j'ai écouté.
Comme de la semaine dernière, d'accord. Non, mais c'est dommage que tu n'aies pas été là.
Ben voilà. Mais... tort, Patrick, désolé.
Non, mais pas du tout, pas du tout.
J'étais malade.
Bref, voilà. Non, c'est... Donc, je disais juste que ce débat est très vite parti dans les tours, que ce soit sur les réseaux, enfin, sur les réseaux sociaux notamment. Sur les forums de Science on Joue, c'est plutôt un débat posé, même si les deux avis, bon, a priori, sont légitimes. Hein. On peut
rejouer aux jeux des années 80, vous verrez, la difficulté, elle était...
incroyable.
Au mauvais design.
Voilà.
Bah, ça dépend des fois. Bah, c'est là où tu vois les jeux qui ont bien vécu, qui ont survécu au temps, qui ont passé l'épreuve du temps et les mauvais.
Ou très bon design, Erwan, quand c'était des jeux d'arcade et qui le but du design c'était de faire lâcher sa pièce. C'était un bon design.
De faire morfler. Ça, voilà, la difficulté, elle était là sans concession.
Chers amis, commençons le programme de cette émission.
Après... Ah, ça enregistre ça. Pardon, excuse-moi.
On a passé les trois quarts d'heure.
Et on va commencer avec un petit jeu pour mobile tout droit venu du Québec. Ça s'appelle Clit Me. Camille, je vais te laisser la parole, n'ayant pas une expertise sur le sujet. Enfin,
non, bah, ça pourrait changer,
revenir, je vais revenir sur
vas-y, ce sujet. Vas-y, Erwan, va sur Sterling Glissant, c'est parti.
Donc, Clit Me, c'est un projet, deux créatrices, un créateur, mm-hmm. Qui ont décidé de s'attaquer à l'Orgasm Gap. C'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, c'est un jeu ou une expérience exclusivement jouable donc, sur le navigateur web de votre smartphone. Donc, n'allez pas chercher du côté du Play Store ou de l'App Store. Car oui, donc, il s'agit, sans mauvais jeu de mots, d'une expérience tactile. Alors, comme son nom l'indique, il s'agit d'apprendre quelques tips sur le fonctionnement d'un clitoris et de jouer avec. Alors, on commence par personnaliser son clitoris. Il a une petite bouille plutôt marronne, d'ailleurs. Et ensuite, on apprend, par exemple, que cet organe sexuel est tout aussi érectile qu'un pénis et qu'il comporte aussi un gland et que ce dernier a même plus de terminaisons nerveuses que celui d'un pénis. Environ 8000 contre 6000. Hein. Donc, on va apprendre plein de choses. Et du coup, après chaque info, s'ensuit une petite mise en pratique avec plusieurs manières de caresser à plusieurs endroits, en même temps plusieurs zone pour stimuler le clitoris et se faire jouir ou faire jouir les autres. Alors, c'est une manière déjà de mieux connaître l'anatomie de cet organe, de voir comment il est possible de jouir avec, de manière différente, parce qu'en fait, bon, c'est pas exhaustif, hein, chaque personne a son clitoris, enfin, qui a un clitoris a des sensibilités différentes. Puis ça s'inscrit aussi dans un mouvement qui cherche à désinvisibiliser. Merci, Quentin. Du coup, cet organe est... Et du coup, donc cet organe dédié au plaisir
en fait
oui, en plus c'est très mignon. Enfin, c'est et j'ai vraiment du mal. Hein.
Contrebalancer. T'as mis que des mots durs.
Mais oui, mais contrebalancer avec tous les pénis que l'on voit toujours partout, ouais. partout. Et en plus, c'est plein de bienveillance. Hein. C'est beaucoup de discours sur le consentement, le respect, l'écoute.
Oui, tout
des
ça, il y a des messages qui passent.
Oui, c'est vraiment très très bienveillant. Et puis je vous avais entendu le son. Enfin, bah oui, c'est tout mignon.
Si le jeu est aussi lumineux que ce qu'on vient d'entendre. C'est presque ouais c'est ça. Orgue.
Non, mais ce qui est intéressant c'est qu'il s'inscrit aussi dans toute une réflexion actuelle
vous avez sans doute vu la campagne It's not a bretzel, c'est un clitoris qui a été imprimé en 3D et qui montre vraiment autre chose que juste la partie immergée de l'iceberg. Et du coup, ça a été placardé un peu partout.
Du coup, tu penses qu'il s'adresse à qui ce jeu, en fait, concrètement
Toute personne désireuse d'en savoir plus sur le clitoris, une personne qui est un clitoris ou une personne qui veut faire plaisir à quelqu'un qui est un clitoris. Mmh. Parce que du coup, tu apprends plusieurs gestes et voilà, quoi.
Et juste, voilà, les créateurs, ils s'attaquaient à ce que j'ai appelé l'orgasm gap. Hein, c'est-à-dire, c'est des statistiques qui montrent que dans les rapports hétérosexuels normatifs, normés, il y a une différence entre le taux d'orgasme des femmes et, celle de, et celui des hommes. Oui, et aussi, c'est aussi toute une réflexion sur, sur la portée aussi politique de quelque chose qui était considéré comme faisant partie de la sphère de l'intime et on n'y touche pas, on n'en parle pas et ce genre de choses, et que forcément il y a une portée politique, il y a un sens politique à l'activité sexuelle d'une manière générale.
Mais oui, on va enfin pouvoir retrouver le clitoris dans les manuels scientifiques et SVT, parce que pour l'instant on voit toute l'anatomie du...
Oui, c'est reproductif entre guillemets, c'est ça.
Et du coup la femme, enfin sur un corps féminin en tout cas, on voyait juste une petite fente et... Ah mais non, en fait c'est bien plus compliqué que ça.
Moi j'ai pas vu le soft, mais j'ai entendu le son, c'est pas vulgaire globalement, non, c'est ça l'idée, c'est que c'est pas...
Non,
c'est pas
non, de toute façon c'est très mignon, c'est très kawaii en fait, hein, c'est vraiment une petite, tout un clitoris avec un petit visage au niveau du gland.
D'accord, donc il y a une vraie personnification.
Ah, enfin, c'est vraiment, c'est très ludique et très bienveillant.
D'accord, est-ce qu'il y a une version Switch, je l'ai pas vu.
Non, mais non, c'est que sur navigateur par contre, sur smartphone.
Je pense c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appli, c'est pas sorti sous forme d'appli.
Non, non, c'est gratuit, c'est directement sur le site clitmoi ou clitme.onf.
Alors pourquoi d'ailleurs,
connaissant la frilosité des stores à ce niveau-là, je pense que ça sortira nulle part.
C'est une grande max.
Il y a eu un barrage peut-être des stores.
Je sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt bienvenu.
Il y a quasiment que Steam qui accepte ce genre de jeu aujourd'hui, de toute façon. Donc, avec genre des jeux comme Janista Justing qu'on a déjà vu, bon là pour le coup, c'est des pénis, mais. Apple, Nintendo, je les vois très mal accepter ce genre de choses.
Pourtant, oui.
Malheureusement, absolument.
Bien sûr.
Juste pour signaler deux trucs qui sont liés. L'épisode des couilles sur la table qui vient d'être mis en ligne au moment où on enregistre il y a quelques heures, qui est consacré, qui est un entretien avec Martin Page sur son bouquin Au-delà de la pénétration, et où ça parle aussi de justement de clitoris, et ça parle aussi de orgasm gap, donc le fait que les orgasmes masculins ne soient pas, il n'y a pas le même taux de réussite entre guillemets. Autre chose auquel ça m'a fait penser, c'est l'actualisation du bouquin Notre corps nous-mêmes et du documentaire qui va avec, qui il y a eu du crowdfunding là-dessus. C'est un bouquin américain des années 70 qui avait été actualisé en France, c'est-à-dire en fait c'est grosso modo des femmes qui écrivent sur leur corps et sur la perception et sur, enfin c'est politique et tout ça, et donc il y a eu un crowdfunding et c'est attendu pour la fin de l'année, donc une actualisation 2019 parce que évidemment c'est un livre des années 70, c'était un livre important et avec des nouvelles choses, donc ça c'est aux éditions Hors d'atteinte pour la fin de l'année. Voilà. Il y a une actualité.
Oui.
Sur
non, puis bien, c'est clairement politique, comme tu disais, et c'est important de le montrer, en fait. C'est une première étape. Parce qu'au final, le clitoris, on le connaît depuis le Moyen-Âge. On pensait d'ailleurs que c'était l'organe reproductif. Et quand on a su que ce n'était juste pour le plaisir, globalement, surtout des femmes, on l'a viré, puisque voilà.
Ça sert à rien.
Ça sert à rien.
À quoi bon ? C'est vrai que ce genre de jeu peut aller contre les tabous, contre dédramatiser.
Oui, plus, c'est complètement dans le ton.
Le jeu vidéo sert aussi à ça, c'est important.
Oui. Yes. Eh bien, on va changer de sujet, mais bien, hein, pour le coup, on va aller...
Mais je vous invite à aller voir, hein, ça prend 5 minutes.
C'est ça. Non, mais juste, c'était exactement pour ça qu'on en parle ici même. C'est pour vous inciter à aller voir Clitme ou Clitmoi pour la version française.
Voilà.
On arrive, c'est une bien triste nouvelle. On était au courant que cette nouvelle était triste parce que c'était la dernière saison.
Triste, mais joyeuse aussi.
Mais joyeuse aussi, parce qu'on a eu peur à un moment. On a eu peur que cette saison, cette dernière saison annoncée de The Walking Dead s'achève prématurément. Avec la fermeture dramatique dont on a parlé ici, il y a de nombreuses reprises de Telltale. Le jeu a été repris, alors c'était la bonne nouvelle, a été repris par
Skybound. Donc la boîte de Kirkman, en fait. C'est ça. C'est la division jeux vidéo de...
Et ça y est, The Walking Dead, c'est fini avec la sortie finale donc, de ces 4 épisodes de la dernière saison. What's the plan? Our only hope is to distract them while we sneak on board. I have something I need you to see. So you can understand what you're asking. If you want my help, try and walk with them. There are 3 kind of eyes, Clue. There are live people eyes, and there's monster eyes. And then there are live people eyes right as you kill them. Glad you blew a candle out. Here we go. Alors, Patrick,
oui,
est-ce que tu as pleuré?
Alors, franchement, j'étais pas très fier de voir mon écran, hein, j'avoue. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, à un moment, je me suis dit, bon, ils ont réussi leur coup, ouais, clairement. Moi, on en a parlé ici régulièrement. Mais, je crois que c'est Erwan Guinen qui avait parlé. Je crois qu'il avait fait les premiers épisodes à l'époque. On en avait parlé ensemble. Moi, j'y avais pas touché parce que j'avais peur de ne pas en voir la fin. Et puis, quand on sait ce qui s'est passé chez Deltel. Finalement, cette saison s'est conclue dans c'est un peu un miracle finalement qu'elle sorte. Hein. On rappelle brièvement les faits. Fin 2018, on apprend que Deltel fait banqueroute, s'arrête d'un seul coup. Les 280 personnes se retrouvent au chômage directement, un peu à la mode américaine. Hein. Ça va vous arrêter, c'est fini. On ferme la boîte, etc. Donc. À l'époque, tout le monde était plutôt préoccupé par le sort de ses employés, hein, qui cherchaient à rebondir, comme on peut le comprendre tout à fait. Donc finalement, il y avait deux épisodes de sortie sur les quatre, qui avaient été datés. Hein. Je crois que c'était rare que Telltale donnait des dates à l'avance de sortie. Ils en avaient sorti deux. Il arrive ça, on se dit, bon, bah ils vont pas forcément la finir. Et on les comprend, parce qu'ils ont d'autres combats à mener, ces gens-là. Finalement, Skybound, donc c'est la boîte de Kirkman qui s'était créée, je crois, quelques mois avant. Toute petite division qui crée des jeux basés sur The Walking Dead, notamment. S'est rapprochée d'une partie de l'équipe de Telltale. Je crois que c'est une cinquantaine de personnes, plusieurs dizaines de personnes qui ont travaillé sur cette dernière saison. Ils ont trouvé un accord, en fait, pour retravailler ensemble quelques mois et donner un point final à cette ultime saison de The Walking Dead. Parce que c'était rageant. C'est-à-dire que Telltale a plié au moment où on arrivait sur l'ultime saison annoncée comme telle. Hein. C'était fin de l'histoire de Clementine. Et quand même, c'est le titre emblématique du studio. C'est ce qui lui a donné sa gloire. C'est ce qui lui a apporté aussi, ce qui a été, à mon avis, symptomatique aussi de certaines de ses faiblesses il y a quelques temps. On en attendait beaucoup et c'était important que le studio donne un point final. Et ça s'est fait, c'est un peu le miracle, c'est qu'avec Skybound, donc il y a un repris. Il y a un très bon article de Variety, je l'avais posté sur Twitter, que je recommande vraiment de lire. Il est fascinant cet article où ils expliquent comment ces cinq mecs de Skybound retrouvent les gens de Telltale. Ils vont dans les locaux et ils se remettent à travailler sur une sorte de dernier mouvement ensemble en disant « on va finir cette saison ». On ne pense même pas à l'après, on finit cette histoire. Parce que derrière... Et quand on lance le jeu, donc moi mon histoire, c'est que je n'avais pas touché aux deux premiers épisodes et je me suis fait un binge gaming, on va dire, de cette dernière saison. J'ai voulu la faire d'une traite et vraiment, parce que je voulais être sûr qu'il y ait la fin, parce que je ne voulais pas rester sur quelque chose de pas terminé. Et c'est vrai, quand on lance le jeu, il y a un truc, parce qu'on sait qu'on lance une saison de jeu d'aventure. Déjà, quand on aime bien le genre, c'est quelque chose. Et puis, c'est quand même The Walking Dead. C'est l'étendard de Telltale. Et puis, on sait que c'est le crépuscule d'un studio. C'est pas rien, quand même. Et c'est pas n'importe quel studio. C'est un peu le studio qui a revitalisé le jeu d'aventure, qui lui a donné un grand coup de pied en 2012 et qui lui a donné de nouveaux horizons. Donc, il y a évidemment pas mal de choses qui se passent quand on lance la saison. Et puis, on a très peur aussi. On se dit, attention, est-ce que c'est pas une cash machine pour dire, bon, allez, on refait un peu d'argent, on refait deux épisodes à la va-vite histoire de combler et de faire un peu d'argent sur une saison qu'on va vendre un peu sur le cadavre un peu encore fumant de Telltale. C'est un peu ce que je craignais, moi. C'est le côté enrobage et hop, on... Non, c'est pas ça. Alors, c'est... encore une fois, c'est un objet, c'est presque un peu morbide hein, quand on lance cette saison. Il y a une sorte de fascination et ça va très bien avec The Walking Dead, finalement. C'est assez fascinant, je trouve, l'objet en lui-même de cette saison. Le titre même de The Walking Dead, on est sur ça. Enfin, il y a quelque chose de performatif quand tu le lances.
C'est un jeu mort-vivant, en fait.
C'est un jeu mort-vivant. Mmh. C'en est même fascinant. C'est-à-dire que c'est un jeu fascinant pour ça, mais qui ne se complaît pas là-dedans. C'est-à-dire qu'il avance et il va vers sa conclusion, qu'on voit arriver peu à peu, et beaucoup de fulgurance. Alors bon, voilà, j'avais noté donc, cette histoire donc, de Skybound. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il il apporte une conclusion. Moi, j'avais eu des difficultés avec The Walking Dead, pas avec le 2012, évidemment. La première saison, elle avait redéfini le jeu d'aventure. J'avais commencé à avoir des problèmes avec la saison 2, qui avait des problèmes de rythme pour moi, qui commençait déjà un peu à s'étioler, à se répartir, à perdre de son impact avec trop de personnages dans tous les sens. Il voulait trop en dire dans la saison 2. Et une saison 3, pour moi, qui était sortie il y a 2-3 ans, je ne sais plus, qui pour moi était symptomatique du malaise tel. C'est-à-dire que c'était un jeu scolaire.
Mais oui.
Scolaire dans un univers fascinant, parce qu'on est quand même sur la licence The Walking Dead, hein, qui a perdu de son éclat aujourd'hui, mais qui a qui est intéressante. Et pour moi, la saison 3, les symptômes, je l'ai refaite juste avant justement d'attaquer la 4, j'ai voulu la refaire, me remettre dans le jus du truc. Elle est pas mauvaise, c'est un bon jeu d'aventure la saison 3, mais elle est scolaire, les personnages sont oubliables.
Un spin-off comme ça, qui en plus serait frustrant,
qui n'apporte rien.
Clémentine,
elle est en second plan,
oui, elle
n'apporte rien. Et en fait, quand tu refermais la saison 3, tu disais mais j'ai rien, ça n'apporte rien. Ces personnages sont sympathiques, mais il y a pas d'âme là-dedans, là c'est tout l'inverse. Je trouve que là c'est cette ultime saison, et je pense que c'est certainement lié aussi à la fin du studio. Je sais pas comment ça s'est fait, si les gens savaient, ils savaient déjà que c'était une fin de cycle, ils savaient qu'ils devaient apporter une fin à cette histoire de Clémentine et Edgy, ce personnage, petit garçon qu'on a vu naître dans la saison 2, et c'est là où ça marche. Pour moi, ils ont resserré, ils sont revenus. Alors je vais essayer de pas spoiler, ça va, parce qu'il faut vraiment découvrir cette saison. Pour moi, la réussite, c'est qu'ils ont resserré sur un couple, un duo de personnages, comme ils l'avaient fait sur la première saison avec Lee et Clémentine. Là, évidemment, tu as cet effet de miroir avec Clémentine et le petit Edgy. Pareil qu'on voyait un peu dans la saison 3, mais qui était un peu en second plan. Là, non, il est là, lui. Il a grandi. Ils ont tous les deux grandi. Clémentine est une adulte avant l'âge, avant l'heure. On sent qu'elle a vécu. Et tous les deux, il y a une alchimie entre ces deux personnages, alors que j'y croyais pas, moi, Edgy.
C'est un peu ce qu'on retrouvait avec Lee et Clémentine. Exactement. Sauf que là, Edgy, c'est un enfant qui n'a pas connu l'ancien monde.
Et ça, c'est intéressant, je trouve. C'est une thématique intéressante.
C'est encore autre chose.
Il a cette rancœur d'être né après les événements de la fin du monde, d'arrivée de la zombification du monde.
Il n'a appris qu'à survivre.
N'a jamais connu le monde d'avant. C'est tout bête. Mais ça, même dans la série, je ne me rappelle pas que c'était dans la série télé que ça a été bien mis en avant. Non. Là, il y a quelques phrases.
On sent que ça manque un peu d'unité de pédopsychiatrie quand même.
c'est le moins qu'on puisse dire.
Que le gamin, c'est... Il est un peu
mais
badass,
moi, ce gamin, mais c'est
dans
marrant.
Le sens psychopathe aussi. Hein, c'est...
Et en fait,
il a appris que
mais
à survivre.
Place,
ça fait un fil rouge. Moi, pour moi, Edgy, ce personnage de Edgy que j'appréciais moyennement dans la saison 3. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il est comme le fantôme de Lee qui est toujours là. Même dans la saison 2, il n'était plus là, mais il était là. On pense tout le temps à Lee. Il est évoqué, il y a ce souvenir. Et Edgy, c'est pareil. C'est l'enfant de personnage qu'on a connu dans des saisons auparavant. Et il embarque aussi un passé. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un passé. Avec cette saison, avec cette série.
Il y a tout un lien de filiation, en fait.
Et quand tu joues ça, quand tu lances cette saison 3, avec ces personnages, Edgy, avec Clémentine qui a son vécu, c'est plus que des personnages. Ce sont des bagages entiers de scénarios qui arrivent avec eux. Et puis, en dehors donc, de ça, de ce mariage entre les deux personnages, de leurs interactions qui fonctionnent bien, je trouve que les péripéties marche bien. Enfin, l'arrivée, on va pas en dire trop, mais cette école abandonnée, en ruine, avec ses anciens élèves, il y a du mystère.
Il y a presque pas d'adultes, en fait.
Ouais,
Camille,
ta perception, toi, de...
Moi, je trouve que je suis assez d'accord avec Patrick, c'est que la boucle est bouclée, en fait. Et on retrouve, ça renoue vraiment avec le premier épisode où c'était vraiment une relation très... de parents, en fait, d'adoption,
ouais,
de compréhension,
de famille qu'on
recompose. Aussi l'idée du modèle, en fait. C'est quel choix tu dois faire pour survivre, mais aussi qu'est-ce que tu veux laisser, qu'est-ce que tu veux apprendre à celui que tu protèges, en fait.
Ah bah là, c'est au cœur.
Et c'est vraiment le cœur du truc, en fait.
C'est ce qu'on retrouve un peu dans The Life is Strange 2, d'ailleurs.
Mais ouais, je suis persuadé qu'ils ont joué à Life is Strange, j'en suis persuadé. Il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de... on va pas développer là-dessus, mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels je me suis dit, mais ça... Même la gestion de la musique. Il y a vraiment des trucs que je me suis dit, ils ont joué à Life is Strange.
Ouais.
J'en suis pas sûr. Je sens une inspiration. Il faudra vérifier.
Je sais pas si je spoil, en fait. Je sais pas si je peux parler. Parce qu'il y a un moment, tu peux faire des choix et des non-choix sur des relations.
Oui, bien sûr.
C'est tellement rare de pouvoir avoir un vrai choix.
Bien sûr.
Et
Avec qui
tu veux avoir une histoire ou ne pas avoir d'histoire au final.
Et c'est
tu peux aussi ne pas en faire.
Alors je suis d'accord, ces moments-là sont importants. Et moi, j'ai retrouvé la magie de la première saison où tu te sens les choix que tu dois faire. Ils te mettent la pression là dans cette saison-là.
Ils sont tellement bien amenés. En fait, c'est naturel. Tu le sens que ça arrive. Et puis voilà. Puis c'est aussi symptomatique parce que est-ce que tu t'as envie d'ouvrir ta porte, est-ce que tu peux vraiment te livrer dans un monde aussi si hostile, sachant que tu sais que tu peux perdre tout le monde n'importe
quoi. Ça va très... on le voit d'ailleurs, il se passe pas mal de choses.
Ils en parlent beaucoup de ce sujet-là en plus. En plus, c'est... Enfin, voilà. Par contre, il y a quand même toujours des problèmes, je trouve, sur les phases de gunfight. Mais arrêtez, quoi.
Et surtout que là, j'ai
arrêtez, faites les choses bien que vous faites très bien, mais arrêtez.
Ils expérimentent
avec ça.
Effectivement des gameplays un peu alternatifs du gunfight, ouais, du tir.
Le QTE, ça va, mais le gunfight, c'est mou.
Ou
tu
de
peux
l'action
pas avancer,
troisième personne.
Même le QTE, c'était
le décor est 2D, 3D, mais du coup, tu vois rien, tu sais pas où tu peux aller, tu te tournes. Enfin, ça, par contre, ça, j'ai ragé. Et à chaque fois, ça te rembobine et ça te remet la scène juste avant et tu t'énerves.
Ah oui, quand tu dois déplacer dans une meute de zombies, notamment. Et que oui, t'es obligé de faire les coups là, le coup de pied dans les, enfin le coup dans
oui,
les pieds, dans les jambes.
Ah, ouais.
Et c'est vrai que oui, c'est un peu, c'est pénalisant.
Enfin, ça, je trouve que ça casse un peu.
Ça
le
casse
truc,
le rythme. C'est vrai que le côté retry, dine retry, un peu chiant.
Bah, surtout avec l'obligation de revoir la scène juste
avant
la télé.
Surtout que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, la force de ce jeu narratif nouvelle génération, c'est qu'on n'est plus du tout dans ce Die and Retry. On est sur la logique de choix, c'est-à-dire que...
Par contre,
ils réussissent. Hein. Ils réussissent et je trouve qu'ils arrivent à remettre des enjeux que j'avais complètement oubliés, moi, chez Telltale. Des enjeux d'inquiétude. Tu sens qu'il se passe des choses dans cette école, on va pas en dire trop, mais très vite...
Et t'as pas envie qu'on te pose de questions, en vrai. Tu sens que tu dois faire un choix bientôt, que tu vas devoir le faire, et t'es là.
Mais oui, et quand tu joues, tu sens cet étau, et ça fait plaisir. Tu te dis, bon sang, ils y arrivent maintenant. Ouais. Ils arrivent maintenant à remettre ça en place.
Oui. T'es vraiment inquiet.
Où tu sens une inquiétude qui monte, et des trucs qui vont arriver, tu les sans venir, tu dis non, je veux pas que ça arrive. Et ça arrive, et tu te retrouves coincé dans une situation qui te dépasse.
Tu te sens responsable de ce petit IG, là.
Et
puis tout le monde te le reproche.
Pour moi, c'est la réussite.
Tout le monde te reproche ton éducation,
peut-être
en fait.
Peut-être même plus que Clementine, c'est IG, qui vraiment, pour moi, surnage cet épisode. On va pas en dire trop, mais je trouve que ce personnage,
il
a.
Génial.
Parce qu'en fait, tu le modélises en tant que parent adoptif. C'est toi qui en fait ce qu'il va devenir. Et à la fin, le jeu te livre un peu le personnage que tu en as fait.
Ouais.
Et moi, je trouve la fin, on va pas spoiler la fin, surtout pas, mais la fin, moi, m'a donné des frissons. Hein.
Ouais.
Il y a un moment, et surtout à la fin, je craignais, parce que c'est le moment que tu attends quand tu lances ce jeu. Tu sais que la fin, c'est la fin de Telltale, c'est la fin d'un cycle.
Tu penses tout le long du jeu.
Et elle arrive, et je trouve qu'elle est classe. Ils prennent le temps, ils te laissent... Tu vois, c'est
même
pas
s'il y a peut-être des incohérences... Je sais pas comment on. Tous les chemins qu'on peut prendre en tant que joueur. Je sais pas.
Moi, j'ai pas trop expérimenté non plus. Moi, j'ai fait ma session, j'ai fait mon aventure.
Moi aussi, mais du coup, je sais pas si on a eu la même.
Je suis pas rentré dans la mécanique. Je le ferai peut-être, mais un peu plus tard. Là, je veux laisser le jeu reposer.
Ça m'a satisfait.
Et moi aussi, mais je trouve la fin. Je dis bravo de finir là-dessus. C'est même frustrant parce que tu te dis pourquoi ils ont pas gardé ça jusqu'au bout. Pourquoi ils se sont dilués. On connaît les problèmes de Telltale. Trop de jeux dans tous les sens avec peu d'innovation. Voilà, il y a un côté machinerie. Usine à jeu à licence, et c'est dommage. Et c'est frustrant de se dire là, sur ce point final, ils réussissent un truc.
Ouais.
Et non, c'est pas seulement parce qu'on est nostalgique de tel. Non, moi j'étais même plutôt, je l'ai pris un peu à rebrousse-poil le jeu.
Mais pareil, hein, j'étais là.
Et là,
qu'est-ce qu'ils vont
faire
encore.
Et puis moi, il y a plein de clins d'œil. Je sais pas, Lost Boys, quoi. Il y a des trucs. Ce film Génération Perdue des années 80. T'as quand même un personnage, sans spoiler, qui c'est un sosie de Kiefer Sutherland dans le film des années 80. Tu te dis, mais ouais, carrément, quoi. C'est
En même temps, le jeu, il te cite
Blade Runner. Je sais pas si tu l'as eu, ça.
De quoi ?
Blade Runner, qui est cité.
De fait, c'est aussi très bien de partir sur un
chose
de note ultra positive.
C'est un plaisir.
Le match de 60 points de Kobe Bryant pour le dernier match de sa carrière.
Entre les références années 80 de Patrick et les références NBA de Erwan, on est perdu.
C'est que chacun y trouve son compte.
De fait, ce serait d'une tristesse absolue de. Sur un jeu moyen.
Ah bah oui, mais c'était la crainte.
Un truc cachine pour faire de...
Je pense que c'est pas, ça reflète aussi finalement l'histoire de ces derniers épisodes qui ont été sauvés des eaux par Skybound justement. Ça a été marqué par l'amour de la licence, la volonté de défaire.
L'article de Variety, ils le disent, les mecs sont revenus pour en finir eux-mêmes. C'en est presque une affaire personnelle. Tu sens que cette fin de cycle avec The Walking Dead, parce que The Walking Dead, c'est ça tel. C'est ça, c'est pas le reste, c'est pas Gardien de la Galaxie ou d'autres.
Tout ce qui a fait la dilution justement de ce qui a marché chez Telltale a été laissé derrière dans les ruines de Telltale finalement. Et ce qui en reste, c'est l'essence, c'est le concentré,
c'est
le
bon,
substrat de Telltale.
C'est une belle image, c'est une belle histoire.
Je trouve que ça restera, dans ma vie de joueur, je trouve que cet épisode, cette saison finale là, c'est beau. Tu te dis, il y a encore un truc, il y a un studio, même à la fin, et c'est tellement en parallèle avec l'univers du jeu, c'est glaçant. C'est glaçant parce que le jeu, avec cette histoire de zombies, de mort autour d'un petit groupe où la mort est omniprésente, on le sait, hein, c'est l'ADN de... Là, on s'attache à des personnages, il ne faut jamais s'attacher à des personnages.
Mais oui, on le sait, mais voilà.
Et ça te pète à la figure, et tu retrouves ça, et tu te dis, mais en fait, ils parlent de leur jeu, ils parlent du studio, ils parlent peut-être même de mecs qu'ils ont connus en interne, tu vois, qui... C'est troublant, c'est vraiment. C'est moi, je le recommande parce que. Alors évidemment, je pense qu'il vaut mieux qu'on ait refait au moins la première saison pour connaître les personnages. Oui. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, avoir le bagage de la série avec ses hauts et ses bas, c'est un plus parce que c'est un point final qui embarque aussi le passif.
Alors, il n'y a pas besoin pour avoir commencé, je n'ai pas fini cette dernière saison, il n'y a pas besoin d'avoir fait la saison 3.
La 3, elle est escamotable.
À peine la saison 2.
Il y a Edgy, s'il y a un peu.
On a des flashbacks de Edgy.
Oui, il y a des flashbacks, on peut vendre.
Donc, je pense que.
La 1, la 2, la 4.
Même la 1 et la 4, à mon avis, ça tient.
Il faut
introduire le personnage, oui. la force du personnage de Clémentine.
Oui,
mais en fait,
il y a quand même un grand écart sur le comportement. Pour comprendre Clémentine, je pense que la 2 est pas mal.
La 2 est importante.
Parce que la 2, tu fais quand même des choix.
Je suis un peu en défenseur de la 2, je l'ai bien aimé, moi. La 2, plus le temps passe, plus je la trouve.
Surtout quand tu finis 4, au final, il y a des choses qui...
Il y a quand même des grands moments.
Et puis oui, bah justement, avec Edgy,
bah, surtout
etc.
la fin.
My God.
Donc voilà, ça finit bien cette histoire. Ça finit mal, mais ça finit bien. En tout cas, le studio est mort, mais on est cop d'une bonne saison.
Oui, c'était c'est bien quand
je recommande,
se termine.
Ça fait plaisir. On se quitte en bon terme, finalement,
oui.
Tel.
Alors,
c'est
on
plus tel,
va rester
tel mais tu vois, c'est une histoire qui sans
rancune. On va rester
ça sans finit rancune. Bien. Non, mais c'est vrai, mais ça apaise tout le monde. Parce que moi-même, je me suis souvent emporté.
C'est un soulagement à la fin, en fait.
Je me suis souvent emporté contre Tel, parce que je les aimais bien, ces gens-là. J'espérais toujours qu'il y ait ce coup de fouet. Ils l'ont maintenant. Post-mortem, bon,
sur le lit de mort, tout est pardonné.
Et c'est même après, ils sont relevés avec un cri de râle, mais ils l'ont quand même. Voilà, ils sont là et ils réussissent leur coup. Non, il faudra voir ce que fait Skybound à l'avenir. On va voir
Au fait, ils font The Wolf Among Us ou pas?
Non, je crois que c'était annulé. Ça fait partie de la saison 2, elle a été annulée.
Moi, j'avais bien aimé la saison 1.
Mais c'est pour ça qu'on.
Tout le monde, mais c'est pas une licence assez forte. Je vois mal comment.
Non, mais clairement, moi j'ai découvert de toute façon.
Fables, je connaissais pas avant.
Donc, mais ça sera peut-être un jour repris par quelqu'un d'autre. Tout ça, on verra. Ouais. Mais bon.
The Walking Dead, c'était la fin. C'est le moment. Merci. Hein. C'était
la passion.
Voilà, la passion. La passion. La passion pour la mort.
Ouais. Il faut le dire. Mais quand c'est bien, il faut le dire. C'est vrai qu'on a tellement tapé sur tel. Il faut le dire quand il y a des bonnes choses avec des anciens du studio. Voilà.
C'est le moment de la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy.
Salut Erwan, alors cette semaine on se retrouve au XVIIIe siècle, au moment où la communauté scientifique se mettait sur la gueule à coups de théories, de découvertes, où la concurrence faisait rage à travers l'Europe, entre Galilée, Kepler, Pascal, Boyle, Halley, Copernic, Bacon, et surtout celui qui a donné son nom à ce jeu, Newton. Alors rien que pendant la mise en place du jeu, vous allez être impressionné. Il y a d'abord un grand plateau avec la carte de l'Europe, puis un autre qui représente un arbre de développement de technologie. Il y a une piste de spécialisation où on pourra décider d'aller trimer, 9 cartes action sur 3 niveaux différents, et puis des plateaux individuels représentant dans la partie haute une grande bibliothèque et dans la partie basse un emplacement pour poser des cartes. Alors Newton n'est pas un jeu qu'on peut apprendre en 3 minutes, Erwan. On va y passer tranquillement une demi-heure, mais c'est pas le genre de jeu qu'on va acheter pour faire une seule partie. Hein. Et c'est bien là ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'il ne complexifie pas en rajoutant plein de couches les unes par-dessus les autres, mais plutôt en offrant un large spectre de possibilités et de stratégies différentes. Alors vous connaissez Erwan, je me fais grassement engueuler à chaque fois que je dépasse les 2 minutes. Je ne vais donc pas pouvoir entrer dans les détails en vous expliquant comment on peut débloquer des rangées de livres dans votre bibliothèque. Je ne vais pas non plus vous décrire le déplacement sur la carte où on va visiter certaines universités, rencontrer des personnalités et débloquer des parchemins. On peut aussi aller bosser pour gagner de l'argent et puis envoyer ses étudiants faire des choses un peu à droite à gauche. La pose des tuiles de base sur la carte et sur l'arbre étant aléatoire, on va avoir à chaque fois des parties complètement différentes. En fait, on peut choisir de se développer sur 30% de la mécanique du jeu sans s'intéresser au reste. D'ailleurs, c'est pas vraiment malin de s'éparpiller. Il y a toujours plein de trucs à faire, on n'est vraiment jamais coincé, et pourtant, il n'y a pas de paralysie. Vous savez, cette tendance qu'ont les autres joueurs en général à regarder le jeu, à l'analyser, à essayer de comprendre quelle est la meilleure stratégie, à se faire des simulations dans leur tête, et surtout à attendre leur tour pour commencer à le faire. Eh bien, c'est la magie de Newton, on a toujours 2 ou 3 coups en tête à l'avance. Et quand vient notre tour, on joue assez rapidement. Newton est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 2 heures, sans doute un petit peu moins quand on connaît très bien le jeu. Il est édité par Cranio et distribué en France par Pixie. Allez-y, c'est du lourd. Et moi je vous dis à bientôt pour parler de jeux qui n'ont pas de polygones et de pixels et donc qui ne vieillissent pas. Ils sont intemporels, ils sont immortels. Bye bye.
Bye bye, Jérémy. Je veux juste démentir, je n'engueule jamais Jérémy, hein, même quand il dépasse 2 minutes, ça suffit, c'est mensonge. C'est pas parce que je tape mes chroniqueurs présents quand ils dépassent trop que les
Regardez,
chroniqueurs
j'ai un bleu là, j'ai un peu trop parlé de Walking Dead, j'ai un gros bleu.
Alors, je vais essayer de prononcer ce mot sans que ça fasse penser à Christophe Lambert. On va parler d'Highlanders. Alors, si vous voyez des images de ce jeu, a priori, j'ai raté mon coup. Hein. Christophe Lambert est dans toutes les têtes. Maintenant,
on pourrait parler du jeu Highlander de Océan des années 80, qui n'était pas bon du tout. Ouais. Un jeu de combat à l'épée qui était.
Raison de plus.
Ouais. Il fallait en rester qu'un.
Oui, mais c'était très mauvais. Un
jeu
contemporain.
Il y avait Queen ou pas?
Ah, pas trop. Hein. C'était un rendu vague, mais c'était vraiment pas bon.
Ah ouais.
Voilà. Non mais c'est bien parce qu'après on va nous taper parce qu'on est trop long sur Highlander alors qu'on n'aura pas parlé
genre,
du jeu
et si on parlait de la série télé Highlander
la péniche
la péniche ah ouais moi j'étais fan ça se trouve elle va arriver sur Netflix un jour
j'adore
des Highlander 2 on en parle aussi d'Highlander
non,
2
non,
il y a un
existé.
Très bon chroma sur la question allez ouais.
Je crois qu'on a fait du hors sujet non
oui peut-être
mais c'est jamais hors sujet Highlander il faut en parler d'Highlander attends
donc Highlander sans le H face à ça écrit Islanders
c'est les insulaires
exactement les insulaires c'est un jeu de Grizzly Games je crois qu'ils sont trois
ils sont à Berlin
ils sont très motivés
ouais ils sont de bonne volonté
et quand ils font la présentation de leur jeu moi je les trouve très mignons ils disent c'est un prix raisonnable pour un jeu zen
t'as vu leur trailer sur Superflight pareil, ils sont en mode. Alors on fait une petite présentation et à la fin de cette présentation, vous saurez si vous mettrez votre argent dans notre jeu.
Non mais
ou
c'est genre
ils sont très sympas.
Voilà, ils présentent le jeu avec chaque point et puis on s'est dit bon à quel prix on le met. Bon là il est à 5€. Voilà, on pense que c'est le prix
pas trop cher.
C'est le prix raisonnable pour le travail qu'on a fourni.
Là il est même à 4,50 en ce moment.
Ouais, voilà. Si au niveau du design, on a parlé il y a quelques mois de Bad North, on en retrouve et à peu près exactement Bad North. Je sais pas si vous vous souvenez.
Ouais. C'est RTS.
Petit RTS minimaliste où il fallait défendre une île contre des vikings qui arrivaient un peu de tous les côtés. Et là, on est sur du city builder minimaliste, Corentin.
Ah, on ne peut plus minimaliste. Hein. Il y a pas de jauge, quasiment pas. Donc, on arrive sur une île comme ça qui est a priori déserte. Parfois, on peut avoir des petites ressources naturelles, une statue peut-être qui traîne. Et on nous donne des bâtiments comme ça. C'est gratuit. On peut les poser où on veut. On y va à la souris. Alors, moi, j'adore parce que, Serwan, c'est ce genre de jeu où je peux avoir le café dans une main et jouer avec
tellement,
l'autre.
Tellement.
Ça, c'est mes jeux préférés. Quand tu as besoin que d'une main pour y jouer, il y a Crypt of the Necrodancer aussi où ouais. Tu peux avoir ton café dans une main. Là, c'est bien. Tu peux y jouer uniquement avec ta souris. Donc plus un point pour moi sur Highlanders, donc c'est très bien. Donc on a juste à prendre ces petits bâtiments qui sont rangés hein, dans un petit tiroir virtuel en bas et les poser sur l'île. On peut les poser où on veut tant que c'est compatible. Hein, évidemment, les cabanes de pêcheurs vont se mettre dans l'eau alors que les maisons normales vont se mettre sur la terre normale. Les mines ou les carrières vont se mettre sur les bordures de montagne en roche. Chacun des bâtiments qu'on va poser aura une zone d'influence qui va être importante puisque la plupart des bâtiments n'auront pas d'effet directement sur le monde, mais entre eux, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand on va poser une maison, par exemple, souvent, s'il y a d'autres maisons, eh ben, ça va apporter un bonus. Et en posant la maison, on va gagner des points. Et les points vont être au centre de tout le système de scoring, mais aussi de est-ce qu'on continue ou pas la partie d'Highlander. C'est-à-dire que
il y a des combats à l'épée après ouais.
Non, absolument pas. C'est ultra calme, c'est posé, la musique est très cool, le sound design est reposant, les graphismes sont tout doux, il n'y a pas de texture, c'est quasiment que des aplats, c'est très mignon. Mais on a quand même le petit stress de est-ce que je vais réussir à passer à l'île suivante, puisque le but, en fait, c'est de remplir son île, puis de passer à la suivante, remplir l'île, passer à la suivante. Donc on va poser ces petites maisons, on va gagner des points en fonction de est-ce que la maison a été bien placée, est-ce qu'au moment où elle arrive, elle va bien interagir avec les maisons qu'il y a autour. Sachant qu'il peut y avoir des interactions qui sont positives, comme par exemple des houblonneries avec
des champs de houblon
tout simplement, ou alors des bûcherons avec des arbres ou des bûcherons avec des scieries. Mais par exemple, des bûcherons et des bûcherons vont pas être contents puisqu'ils vont être en concurrence. Donc ça va te faire perdre des points si tu poses des bâtiments qui se rentrent en concurrence les uns avec les autres. Et du coup, il y a des bâtiments. Il faut réussir à créer un petit peu son plan d'urbanisme comme ça de son île en disant bon alors par là ça va être les agriculteurs, là-bas ça va être le centre-ville, ici c'est les pêcheurs. Là il y a les cabanes qui veulent rester toutes seules parce que c'est des cabanes et que les cabanes voilà elles sont un petit peu isolées. Il y a les druides. Alors les druides c'est un peu les souffre-douleurs les pauvres parce que les druides ils sont contents quand ils sont un peu tout seuls au milieu de la nature. Il y a pas de problème. Par contre, les gens adorent aller à côté des druides. Alors ça, c'est terrible pour eux. C'est-à-dire qu'une fois que le druide est posé, bah, il faut mettre les gens autour du druide pour gagner des points. Le pauvre druide, au début, il est tout seul. Et puis, tu le mets au milieu de ses champs, il est très content. Puis après, il déteste les centres-villes. Si tu poses ton druide à côté d'un centre-ville, que les maisons adorent, tu perds des points. Et voilà. Donc, on a une jauge sur la gauche, en fait, qui va se remplir si jamais on arrive à marquer des points opposant ces petites maisons. Et si vous remplissez une jauge, on vous donne le droit d'ouvrir une espèce de booster de bâtiments supplémentaires.
C'est ça.
On vous donne des petits paquets, on vous donne le choix même souvent, genre alors le paquet houblonnerie ou le paquet pêche, à vous de voir et à vous de voir en fonction de votre plan d'île à ce moment-là. Bon, ça s'accumule même. Hein,
et en fait, combat à l'épée, c'est quand ?
Il y a pas de combat à l'épée, Patrick. Il faut que tu arrêtes avec ça. C'est très sympa.
C'est le titre, moi, qui m'a échaudé.
Ah oui.
C'est le titre.
Écoute, il y a pas de combat à l'épée. C'est terrible. C'est très calme. Et en fait aussi, il y a une autre jauge plus longue qui représente l'île. Et une fois que cette jauge d'île est remplie, on peut passer à une île suivante qui est plus grande, avec plus de ressources, etc. On peut rester autant qu'on veut, hein, d'ailleurs, sur l'île en cours.
Tant qu'on a des
nouveaux bâtiments. Ce qui fait que le bâtiment en lui-même est une ressource, en fait. Il n'y a pas de genre, j'ai pas de pierre ni de bois, donc je ne peux pas faire telle ressource. C'est vraiment les ressources qu'on vous donne, et elles sont gratuites à poser. Il faut juste, au bout d'un moment, ça va être la place qui va vous manquer, ou alors les places intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où vous allez arriver, tiens, j'ai ma tour. Alors ma tour, elle est intéressante parce que elle peut se placer au milieu des villes et en fait, elle va donner un bonus à tout le monde. Enfin, elle va prendre un bonus elle-même pour tous les bâtiments qu'il y aura autour. Mais au bout d'un moment, quand vous allez avoir beaucoup de tours, et ben les tours en elles-mêmes, elles se mettent des malus. Donc en fait, vous n'allez plus trouver d'endroit où mettre d'autres tours parce que vous allez perdre des points si vous la mettez votre tour. Donc c'est des points où vous pouvez vous retrouver avec des bâtiments où genre, bah si je les pose, je perds des points. Donc en fait, je vais pas le poser, puis je vais le garder dans un coin. Puis au bout d'un moment, ça s'accumule. Puis au bout d'un moment, on peut rester coincé comme ça à plus pouvoir poser ces bâtiments.
On est plus SimCity que Molineux, en fait, non?
C'est complètement un city builder.
C'est un city builder.
C'est un city builder. Ce que moi j'ai trouvé absolument fascinant dans Islander, je vais prononcer comme ça, autrement on ne va pas y arriver.
Islander.
Bah ouais.
Non mais t'as raison, au moins il n'y a
Islandais.
Pas de.
Islandais. Voilà.
Parce Islandais. Après, on a des images dans la tête, c'est terrible.
Ce qui est vraiment intéressant, donc il y a ces deux jauges. Hein, donc, une jauge qui va débloquer les bâtiments suivants et une jauge qui va débloquer l'île suivante. Sachant que si on n'arrive pas à débloquer l'île suivante et qu'on n'a plus de bâtiments à poser, c'est le game over. C'est une sorte de rogue city builder minimaliste, hein, si on veut qualifier ça, mettre ça dans une boîte.
Ils indiquent d'ailleurs une partie, c'est 2 heures, pour donner une idée.
Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est comme s'ils avaient pris le noyau de ce qu'est un city builder. Ce qu'est un city builder, c'est le placement des bâtiments. Et bah pour garder ça, c'est qu'on enlève la variable temps. Donc la variable budget, le mois qui passe,
les
contingences bassement matérielles de budget. Et on va juste valider d'une manière définitive le placement d'un bâtiment. C'est-à-dire que le bâtiment, au moment où il est placé, il va rapporter un certain nombre de points en fonction de ce qu'il y a autour de lui, et c'est tout. Et après, il va jouer aussi, il va rapporter des points indirectement sur les bâtiments suivants qu'il va influer. Et donc, en fait, on garde cet ADN ultra minimaliste en enlevant la variable temps d'un city builder.
Et le
stress du city builder.
La vulgarité, tu enlèves la vulgarité des paramètres.
Et avec ça, et ben finalement, on a un jeu qui est très simple parce qu'à chaque bâtiment va être lié juste un nombre de points et donc le remplissage d'une jauge. Mais finalement, en termes de résultats, en termes de cohérence générale de l'île telle qu'elle est rendue, et ben c'est plutôt très réussi. C'est-à-dire que on va avoir un centre-ville, on va avoir des villages qui vont popper parce que c'est intéressant. On a placé un druide parce qu'il y avait des ressources naturelles et tout ça. Et donc mais ça va créer un village autour du druide, ce qui est logique aussi. Et puis le marché qui arrive un peu plus tard et qui va rapporter énormément de points si on a la place pour le poser. Parce que c'est, si on a mis son île à un endroit hyper intéressant, mais qu'on a rempli, on a mis trop de maisons, et puis on a mis un cirque aussi qui a rapporté hyper beaucoup de points. Bah, le truc, c'est que le marché, on n'a plus d'endroit où le poser.
C'est ça.
Et donc, on va le poser peut-être près de l'entrepôt, parce que l'entrepôt, ça ramène aussi, c'est intéressant. Mais c'est moins intéressant que s'il était à côté des maisons. Bah, bref, du coup, l'île, au final, est hyper cohérente et hyper jolie.
Elle est
aussi
organique, en fait.
Et organique. Et donc, on a gardé cet ADN un peu structurel du City Builder. Mm-hmm. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, ce qui manque, la contrepartie, en fait, c'est l'absence de ce moment un peu jouissif du City Builder, qui est le late game. C'est une fois que tu as vu...
Une fois que tout roule.
Une fois que tout roule, et que t'as ton compte en banque qui s'enflamme, et puis tu vas optimiser le truc, et puis tu vas
c'est
détruire.
Le moment où tu te mets bien au fond de ton fauteuil, et que
avec
tu regardes ton écran.
Et tu fais, ouais, c'est bon. Voilà ce que j'ai
un moment
de
pesanteur un peu.
Et ce moment dans le City Builder où tu vas détruire aussi, où tu vas optimiser. Bah non, mais tu vas détruire la zone industrielle polluante pour mettre des énergies vertes. Tu vois, c'est cette part du City Builder qui est assez trippante, enfin moi que j'adore, je sais pas vous, mais c'est vrai que la part où on commence à optimiser un petit peu, à virer la pollution, parce que bon, ça on la retrouve pas dans Highlander. ce nom m'énerve. Mais bon. Voilà, c'est ce qu'on appelle un jeu minimaliste aussi, c'est qu'ils ont gardé le cœur du jeu.
Il y a un petit côté qui peut être aussi envahissant au début. Enfin, moi, j'ai trouvé un petit peu... Enfin, c'est beaucoup de choses à apprendre. On a notre bâtiment qui est dans notre inventaire, et en fait, en passant la souris dessus, on a la liste des bâtiments avec lesquels il va interagir. Et c'est vrai que pour certains bâtiments, la liste peut être longue.
Yes.
Et c'est vrai qu'au début, on est... Ah, je ne sais pas ce que je fais, c'est compliqué. Mais ça, c'est souvent le cas dans les jeux de ce genre-là. On est un petit peu submergé par la somme d'informations. Mais au bout d'un moment, en effet, comme dit Erwan, l'aspect organique va prendre le dessus et va dire non mais attends, si je place mon auberge, évidemment qu'il faut qu'elle soit à côté du houblon et des villages. Si je mets mon cirque, ouais, si c'est des manoirs et des gens riches, ils vont pas aimer ça, alors que c'est des petites cabanes et des maisons plus populaires, on va dire, ça va être plus sympa pour eux. Et du coup, il y a un aspect logique qui vient se mettre
en place. D'urbanisme, en fait.
D'urbanisme. Tu parlais tout à l'heure de la place, il y a aussi une gestion de la place qui est intéressante et qu'on finit par apprendre, parce qu'au bout d'un moment, on a des plateformes qu'on peut placer dans la mer, qu'on peut mettre sur les montagnes, sur les endroits qui ne sont pas forcément faciles à construire. Il y a aussi une notion de planification qui n'apparaît pas de prime abord, mais qui finit par arriver, comme par exemple, non mais attends, je vais foutre des bûcherons là qui vont se mettre en concurrence, puis après je vais te mettre une scierie au milieu, ça va faire max points. Alors ok, j'aurais perdu 10 points avant, mais là je vais faire un max point avec un placement. D'ailleurs, il y a plein de petits succès qui fonctionnent assez bien dans ce cas présent, qui disent ah là vous avez marqué 100 points avec un bâtiment, bravo, c'est bien joué. Et du coup, on finit au bout d'un moment par réussir à planifier dans sa tête sans forcément énormément de mécanique. Et ça, je trouve, c'est un vrai petit succès pour un jeu de ce calibre-là. Alors, c'est vrai que par contre, on se pose la question avec Erwan, un tel jeu, pourquoi il n'est pas sur mobile? Pourquoi il n'est pas sur... C'est étonnant. Ouais. Parce qu'il justement, il joue avec un doigt. Il joue, donc peut-être que c'est un test.
Il n'est pas sur Switch non plus, je regardais. Il est que
il
sur
est pas,
PC.
Que sur PC.
Pour l'instant, il est que sur Steam.
Il devrait, si ça fonctionne, ça
devrait...
Et pour
le coup, je trouve, avec ce tarif-là, avec ce gameplay-là, qui je trouve hyper original, parce que le truc, c'est qu'ils ont réussi. Moi, la vraie performance, c'est ça, c'est d'avoir gardé cet ADN de City Builder
en virant tout ce qui
était inutile ou ce qui était supprimable, en fait. Qu'est-ce qu'on peut supprimer d'un City Builder pour continuer à appeler ça un City Builder? En fait,
c'est l'essence du genre.
Exactement.
En fait.
Et je trouve qu'ils ont réussi un truc, et ça passerait très bien sur mobile. Je trouve qu'ils ont un tarif de mobile, un jeu qui marche très bien sur mobile. Ça peut rappeler un truc type, c'est pas du tout le même genre, mais un peu façon mini métro, comment il est bien passé sur mobile, et tout ça. Et je pense que c'est un type de jeu qui irait très bien avec le côté un peu rock de mini métro, où voilà, au bout d'un moment, on perd et on recommence.
C'est un peu stressant quand même.
Voilà, sans le stress, c'est bien.
En tout cas, vous m'avez convaincu.
Non, c'est vraiment chouette et à ce prix-là, ce serait bête de ne pas en profiter. Là, il est un petit peu moins cher, il est à 4,50.
Je cherche des jeux zen un peu en ce moment.
Ah,
donc,
c'est très très zen en plus.
C'est joli en plus.
Moi, j'ai coupé le son, j'ai mis un podcast et j'ai laissé le bruit des mouettes, c'était très bien.
Le bruit des mouettes. Parce que tu peux choisir le bruit des mouettes.
Non, mais on entend le bruit des oiseaux, des vagues et tout ça, et du coup, j'ai juste laissé ça avec le podcast, c'était très bien.
Il ne peut en rester qu'un, de toute façon.
Bah oui, la mouette.
Il ne peut en rester qu'un.
Allez, on va faire. On a fini avec ce nom de jeu là, hein, je ne le répéterai pas. Et puis c'est le moment d'aborder le dernier jeu de cette émission. C'est le nouveau jeu de Lucas Redwood. Qui est Lucas Redwood? Lucas Redwood m'a rendu fou avec son jeu précédent qui s'appelait You Must Build a Boat, qui était un chef-d'œuvre absolu, le meilleur match 3 qui soit. Et il revient avec Photographs.
Have you ever made a mistake? Something serious. Something that hurt the people you care about. What if you could change that?
Alors lui, la question ne se pose pas puisqu'il est déjà sur PC et mobile.
Que sur iOS pour le moment, mais Android, ça va arriver bientôt.
Ça devrait arriver dans pas très longtemps. Alors, ce photographe, Camille.
La dépression.
Wow. Mince.
Voilà, bon.
Je comprends pourquoi tu as besoin de jeu zen, en fait.
C'est zen, hein, finalement, c'est dans l'idée. Mais
entre The Walking Dead et ça, t'es servi.
Oui, bah, c'est plutôt joyeux. Hein. Donc, oui, voilà, en fait, on va suivre 5 histoires différentes. On arrive dans un moment crucial de la vie d'une personne. Pour avancer dans l'histoire, en fait, on fait des clichés avec un appareil photo.
Ouais, voilà. On prend des sortes de Polaroid.
Oui, parce qu'il y a aussi, en fait, c'est un jeu multiple, parce que du coup, tu fais ça, c'est un peu en mode objet caché. Tu as un indice et tu dois trouver dans la maison quelle scène qu'il faut capturer pour faire avancer l'histoire.
Et petits mini-jeux aussi, j'ai vu, non ?
Oui, et en fait, chaque histoire, du coup, c'est montré via un petit Polaroid. Mmh. Et en fait, tu as des mini-jeux, des petits puzzle games entre chaque avancée de l'histoire, et ils changent à chaque fois, ils s'adaptent à l'histoire. Donc du coup, c'est toujours des puzzle games très différents et qui correspondent plus ou moins bien à l'histoire.
T'as 5 gameplay, en fait.
Voilà, c'est ça. 5 histoires, 5 gameplay. Donc du coup, c'était surprenant, parce que je pensais que ça serait toujours le même puzzle game bête et méchant, mais au final, non, c'est à chaque fois très différent et la difficulté monte croissant.
Ouais. Lucas Redwood, tu avais joué à You Must Build a Boat ou pas?
Non,
c'était un truc incroyable, donc c'était du match 3, hein, donc le Bejeweled et c'est quoi
Candy Crush,
voilà. Bon, bref, sauf que là, il y avait un côté jeu de rôle en même temps et surtout, on retrouvait ce design, ce pixel art
très joli
qui est hyper réussi. Il est hyper fort, le mec. Ouais. En pixel art, on a rarement vu quelque chose d'aussi cohérent et tout ça. Et donc, c'est vrai que voilà, la dépression, c'est que ces 5 moments, grosso modo, c'est 5 mauvaises décisions.
C'est 5 décisions, en fait.
Décisions qui s'avèrent pas très bonnes.
En fait, ça part de bonnes intentions.
Mais tu les prends, les décisions?
Non, en fait, c'est montré que toutes les bonnes intentions n'amènent pas forcément...
Et toi, tu es actif dans les choix?
Non,
ou...
c'est quand tu...
Pas tant.
Tu prends des photos,
pas
quoi.
Tant.
Non, c'est quand tu avances dans l'histoire, en fait.
D'accord.
Voilà, donc en fait, c'est une sorte de puzzle game narratif, c'est ça?
À peu près ça.
C'est Florence, en fait, un petit peu.
Il y a un petit côté...
Oui.
Mais
moins... Parce que dans Florence, je trouvais que les mini-jeux étaient un petit peu... arriver un peu comme ça.
Ouais, un peu chasse.
Tandis que là, c'est vraiment bien...
Un Florence cohérent au niveau du gameplay, alors.
Voilà, c'est plutôt ça, ouais. Je trouve.
C'est-à-dire qu'il y a, je crois, la deuxième histoire, si je me souviens bien, c'est sur une équipe de plongeons, en fait, de sport. Et le jeu, ça va être un jeu de lancer, en fait, où il va devoir passer par des obstacles. Il va falloir lancer la plongeuse pour qu'elle arrive à un endroit dans le bassin, et avec, en rebondissant à certains endroits, et puis ça va donner la note va obtenir au concours. Moi, je suis allé à la fin, c'était assez plaisant. Ouais. Le problème est dans le assez. C'est que par rapport au créateur de You Must Build a Boat, j'avoue que j'en entendais un tout petit peu plus.
Moi, du coup, j'attendais pas grand-chose, donc j'ai été très agréablement surprise.
et alors, voilà, le truc, c'est que sur ces 5 histoires, il y a des fois, c'est un peu facile. Il y a des fois, c'est très original, hein, notamment la dernière, sur une sorte de truc où ça devient un peu magique. Donc, en fait, on suit quelques... Parce qu'on est, très terre-à-terre dans les histoires 2, 3, 4. La première histoire est un peu fantastique aussi, à sa manière.
Ouais, mais ça pose plein de questions intéressantes, quoi, sur jusqu'où t'es prêt à aller pour sauver tes proches, ou quel mal tu peux faire pour un bien plus grand. Enfin, c'est des questions très...
C'est un peu comme The Walking Dead, en fait.
Bah, j'ai joué aux deux en même temps.
C'est même un peu comme Highlander, finalement.
J'ai pas osé, hein. Je me suis auto-censuré.
Tout est lié, en fait.
Je ne pense qu'à ça depuis tout à l'heure.
Mais... Jusqu'où serait prévalé pour l'immortalité.
Parce qu'il peut rester.
Il ne peut rester. Ouais, mais alors, au final, j'ai trouvé finalement...
Mais t'as pas vraiment de choix.
Ouais,
y a
Highlander
non plus.
T'assistes un peu à...
D'une part, tu assistes à cette histoire. D'autre part, j'ai trouvé que les morales, entre guillemets, parce que c'est moral, pour la plupart des histoires, sont un peu attendues. C'est un peu...
c'est vrai qu'il y avait ce côté-là un petit peu gênant parfois sur certaines.
Les colons contre les populations présentes contre les colons, le dopage dans le sport, le machin... Enfin, le dopage, c'est pas bien. Tu
vois,
c'est pas très bien. En fait.
C'est chaud. Ouais.
C'est vrai que j'y joue parce que j'ai pas encore intégré.
C'est un jeu orienté.
En fait, le truc, c'est vraiment sur le retour de bâton. Quoi. Ouais. C'est... Mais après, à la fin, justement, tu dois, on peut dire que tu peux choisir.
Ouais, on a le droit de revenir à la fin sur une des cinq histoires, en fait. On doit choisir...
Qui tu veux sauver Quelle histoire tu veux sauver, en fait?
Alors, en fait, le truc est hyper sympa, c'est-à-dire le design est bien, les petits gameplays sont sympas, grosso modo, c'est chaque histoire, c'est 30 minutes, il prévient en plus.
Oui, c'est ça, à peu près.
Dès le début, il dit chaque histoire, c'est 30 minutes. Oh donc,
j'aime bien,
c'est... Sauf que moi, j'ai eu des bugs. J'ai eu des bugs pendant les mini-jeux et du coup, je devais partir et revenir.
Ah. Donc, ça a mis plus de temps.
Voilà.
Mais j'aime bien quand même ces designers qui prennent drôle, conscience qu'on n'a pas tous 30 heures devant nous. Ouais. Là, c'est 30 minutes,
mais
c'est
non,
bien.
Là, puis tu vois, tu fais une histoire d'un coup, après t'arrêtes, tu reviens.
Yeah.
Voilà, et on te ça. dit, ça va faire 30 minutes. Ouais. Je suis pas fan de
Moi, j'aime bien.
Non, mais ils te le disent avant. Mais ils te le disent pas dans le jeu. Enfin, c'est pas.
Ouais. Il y a pas de compteur. Hein.
Non,
il y a
non,
pas
y a
un
pas
compteur.
Pas
hein. Tu peux prendre ton temps hein, si tu veux. Hein.
Je me rappelle de.
C'est indicatif, hein, c'est pas.
Je me rappelle de ce vieux. J'avais un RPG sur Vita, pareil. Il demandait votre vie, elle est occupée en ce moment. On peut vous donner et tout. Alors là, on peut vous faire une histoire en 20, 30, 60 heures. Et moi, j'étais.
Vous avez de la batterie.
Je vous adore, les gars.
Mais au final, quand tu refais à la fin, quand tu décides de sauver une histoire, on va dire sauver entre guillemets, tu te rends compte au final que il y avait pas forcément de bons choix à faire. En fait, c'est toi. Par rapport à ta conscience, comment tu peux essayer de...
Comment tu te regardes dans ta glace après,
voilà, quoi. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Mais bon, du coup, j'en ai fait qu'une fin. Et le choix, il est un peu... Bon,
C'est ça. Il y en a pas...
Le sacrifice.
Après, le fait est que c'est très bien écrit.
Ouais. Les musiques sont bien aussi.
Les musiques, on l'a entendu, les musiques sont très bien.
Donc il y a des textes, c'est ce que tu dis.
Il y a du texte, ouais. Je trouve que c'est très bien écrit. Il y a un côté un peu naïf. Moi, c'est un peu ce que j'ai regretté aussi.
La fin du premier, ça m'a un peu.
Ouais, oui. Bon. Certes, okay. mais je sais pas, il y avait un côté peut-être. Je sais pas, j'en attendais peut-être un peu plus.
Oui, voilà, il y a peut-être ça aussi.
C'est de ça, parce que le jeu précédent, par exemple, avec You Must Build a Boat, c'est un jeu que j'ai fini 4 fois. Donc,
non, mais j'irai voir.
C'est, pour le coup, j'avais ça, vraiment accroché.
Le jeu, après un grand succès, c'est toujours compliqué, hein, parce que c'est vrai que c'est pareil
comme
pour
une
le
saison
cinéma.
Finale,
voilà,
c'est pour ça qu'Highlander 2 a pas été terrible, par exemple.
Non,
il y avait pas que ça. Il y avait d'autres problèmes sur Highlander 2.
Bon, il est pas bien cher, je crois. Il a combien?
Il a 7€, 8€.
Il est bien cher, quand même. Non, mais bon.
En tout cas, j'y ai joué sur Steam pour le moment et avec la souris, c'est un peu la merde.
Il est plus pensé.
Vivement qu'il soit sur Android.
Ouais. Mmh. Il est beaucoup plus pensé pour.
Après,
pour
si vous avez un iPhone, hein, ça peut arriver, et vous pouvez jouer avec. Quoi, mais
c'est une très très belle réalisation. Ceci dit, il n'y a rien à dire en termes de réalisation. Je trouve qu'en termes de profondeur de jeu, mis à part sur les derniers puzzles, tout est assez simple. Enfin, bon, il n'y a pas de difficulté majeure.
Non. Pour des jeux narratifs, c'est normal ça.
Oui, non. Non, mais ça va.
Ouais, mais il manque le choix pour appeler ça un jeu narratif. C'est un puzzle game narratif parce qu'il raconte une histoire.
Il y a une promesse qui n'est pas vraiment tenue au final parce que tu peux pas vraiment.
Non, tu peux pas influer en fait. Enfin, je crois pas. Mais
ta place là-dedans, quoi, finalement, c'est de chercher des objets.
Non, en fait, c'est très contemplatif au final.
Oui, c'est ça.
C'est une petite expérience de 2h30, entre 2h30 et 3h, qui se tient bien.
Mais
quand tu regardes Obradine, par exemple, tu vois ton rapport au jeu. Enfin, tu vois, t'as un autre rapport à une narration.
Ton personnage est présent dans le jeu.
C'est ça. complètement différent. Bah,
ouais. C'est The Photographs, hein, donc qui de Luke Harrywood, 88 Games, présent sur Steam, enfin sur PC, je ne sais pas si c'est ailleurs.
C'est
que
Steam.
Sur Steam et iOS pour l'instant. Donc une 7 euros, entre 5 et 7 euros.
Ouais, je ne sais plus.
Bref. Merci à tous les trois pour cette émission et la question rituelle. Merci. À laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin ?
Bah, moi, quand je prends l'avion, c'est bien parce que comme je n'ai pas le temps d'aller au cinéma habituellement, bah, je rattrape des films que je n'ai pas pu aller voir.
Dans des conditions optimales en plus. Hein,
alors, tu vas rigoler, tu vas rire. Parce que j'ai regardé First Man. Alors, c'est vraiment très rigolo quand tu as les turbulences pendant que Ryan Gosling est dans son module lunaire en train de décoller. Ah oui, du coup, moi, j'ai vraies vibrations. Donc, un First
Man. Génial le système de vibration.
Vraiment, vraiment très immersif. Donc, First Man, hein, je rappelle, film qui a suivi La La Land pour Damien Chazelle, que j'aime beaucoup ce réalisateur, avec un Ryan Gosling qui, pour le coup, campe bien le rôle de comment il s'appelle, Armstrong, donc premier homme sur la Lune, qui se noie dans le travail pour échapper à la détresse d'avoir perdu un de ses enfants d'un cancer. Ça marche bien, j'aime bien le parti pris de Chazelle d'avoir fait des plans très, très, comment dire, enfermés dans les boîtes de conserve, vraiment très claustrophobiques. On voit pas grand chose, c'est pas un interstellar, on n'est pas dans des grands plans space opéra et tout ça. Donc c'est un vrai parti pris qui est bon parce qu'on se met un petit peu dans la place des astronautes qui en effet sont enfermés dans des boîtes de conserve qui voient à peine l'espace finalement depuis leur petit hublot. Mais c'est vrai que le film se complaît peut-être un petit peu dans le drame permanent des gens qui meurent tout le temps. On voit bien le drame qui se joue et finalement la robotisation du personnage incarné par Ryan Gosling dans cette espèce de machine à être le pilote parfait pour être le gars qu'on va envoyer sur la Lune. Mais c'est vrai qu'à force de le transformer en robot, on perd un peu le lien affectif qu'on aurait pu avoir avec lui et qu'on a au début quand il est très proche de sa fille et que sa fille meurt. C'est tout début du film, je spoil rien. De toute façon, c'est la vie d'un mec qui a existé, crotte. mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'en fiche un peu de ce qui peut lui arriver au pauvre Armstrong. Et on est quand même content de le voir arriver sur la Lune à la fin. Spoiler. mais voilà, c'était pas mal, mais je comprends aussi pourquoi il n'a pas eu d'Oscar. Hein,
ouais, mais du coup, c'était peut-être plus sympa de le voir au cinéma. Non,
mais non, j'ai eu les turbulences pendant le décollage. Tu comprends rien. C'est vraiment l'expérience parfaite, quoi.
Prends la billet d'avion.
J'y suis et tout. Non, mais c'est sûr que ça aurait été mieux de le voir au cinéma. Mais après, justement, avec ses plans claustro un petit peu, je pense pas que je manquais non plus.
Interstellar, comme tu disais.
C'est pas Interstellar. Voilà. Mais le film, par contre, j'aime bien sa patte. Il y a une patte qui est très intéressante. Le parti pris de Chazelle est très intéressant. C'est bien qu'il l'ait fait comme ça. Voilà.
Camille.
Eh bien, quand je ne joue pas, j'engloutis deux saisons de The OA en quelques jours. Alors, et du coup, la question, c'est pourquoi je suis passée à côté de ça, en fait ? Eh bien, en fait, c'est peut-être pas plus mal, parce que je crois qu'il y a eu 2 ans entre les deux premières saisons.
Il y a Juan qui fait des gestes, mais mêmes qu'il nous fait d'habitude.
Alors, cela, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais
alors, quand j'ai commencé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce drôle de trip peu... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, c'est hyper surprenant, hein, parce que même si on retrouve des sujets qu'on a déjà vus et revus dans la science-fiction, en fait, je trouve que cette série est sous-cotée, quoi. Personne n'en parle, alors que c'est quand même assez fou et
sauf
assez
moi,
fort.
La semaine dernière, dans Silence, on joue.
Ah mince, merde, désolé.
Vas-y, continue.
Alors, en fait, ça touche à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Hein. On a la figure du scientifique, le fait d'être un cobaye, d'être soumis, de choisir d'être soumis, de vouloir se sauver les autres. Il y a de la métaphysique, de la psychophobie, de la transphobie, de la philo, du religieux, de l'empowerment. Enfin bon bref, ça s'intéresse aussi à la famille, le destin, tout ça.
La danse.
Ah oui, la danse, c'est très important. Et montré de manière toujours très, très onirique. Enfin bon bref, c'est bien joué. Et puis Elon Musk, je sais pas.
Oui, c'est ça.
Elon Musk.
Mais cette saison 2 est dingue.
Allez, non, mais saison 2.
Elle est tarée.
La saison 1 était waouh. Et la saison 2, c'est waouh.
Et en fait, une des forces, parce que je crois que la semaine dernière, j'avais pas fini la saison encore. J'ai fini.
Et moi, je l'ai vu en quelques jours.
Une des forces que j'ai trouvées, c'est que moi, j'avais vu la première saison et elle était tellement chelou. Ouais. Tellement géniale, mais chelou. Mais que oui. Je pensais qu'elle allait jamais être renouvelée. Et donc, j'étais content parce que la fin de la première saison, c'était une très bonne fin de série aussi. Elle se terminait bien.
Et là,
c'est pareil. C'est-à-dire que si cette saison 2 est la dernière saison, eh ben, c'est bien aussi.
Mais c'est comme ça que les séries devraient être faites, d'ailleurs.
Et s'il y a une saison 3, on sera tous contents. Mais en même temps, moi, s'il n'y a pas de saison 3, eh ben, ce sera un très bon...
Mais c'est pas grave, parce que c'est tellement... c'est dur d'en parler. C'est tellement...
Trop bien.
Voilà. Trop
bien. Patrick.
Alors moi, je vais vous parler d'un film de 1986 avec Christophe Lambert. Non, je plaisante. On pourrait. Hein. Non, mais vous connaissez mon attachement.
J'ai cru.
on en reparlera un jour. Non, vous connaissez mon attachement pour le Paris des années 80, mis au cinéma, filmé, les polars. Et j'ai ressorti un de mes DVD un petit peu poussiéreux que je prends toujours plaisir à revoir. Ça s'appelle, c'est un film quand même qui a été triplement césarisé en 83. C'est pas rien. C'est La Balance, hein, un film de 82. Alors, c'est un film que j'aime beaucoup, bah, qui suit. On a un casting de fou, hein, Nathalie Baye, Richard Berry qui joue un flic, un policier assez ambigu, un peu bizarre, mais bon, qui a vraiment une prestance à l'écran. Et surtout, Philippe Léotard, grand acteur, et qui joue là, en fait, il incarne un proxénète qui va être utilisé par la police pour faire tomber un baron de la drogue parisien. Et Léotard est incroyable dans son rôle. Il crève littéralement l'écran. Et alors, pourquoi je vous parle aussi de ce film en particulier aujourd'hui? Parce qu'il prend place dans le Belleville, c'est-à-dire à quelques rues d'ici même.
C'est où Belleville, Patrick?
Bah, c'est pas très loin, c'est dans Paris, on est juste à côté. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ce film du début des années 80 est vraiment, enfin, se situe dans le Belleville des années 80 qui est méconnaissable. C'est-à-dire que c'est vraiment un Belleville old school, ultra.
Ça doit pas être terrible d'habiter par là, non?
Oh non. À l'époque, ça avait l'air un peu bizarre, hein, j'avoue que. Et non, la particularité de ce film, c'est qu'il a été réalisé par un Américain, j'ai plus son nom, Bob Swaim, je crois. Donc, il y a ce côté film français, mais avec la peps du regard américain, avec tout l'héritage, j'imagine, du polar américain, de la façon de filmer à l'américaine. Et c'est vrai que le film, il a ce style à l'américaine dans le Paris du début des années 80. Et encore une fois, je trouve que Léotard crève littéralement l'écran. Il est incroyable dans son rôle de pauvre type, mais qui est grand finalement. Enfin, je recommande, surtout pour le jeu de Léotard, qui est incroyable, incroyable. La Balance, c'était un grand succès de l'époque. On en parle un peu moins aujourd'hui, je trouve. Il est un peu sorti des radars, et c'est dommage.
Un peu comme Christophe Lambert finalement.
Oh non, Lambert, non, faut pas dire ça.
Sorti des radars aussi.
Faut pas dire ça, non. Alors moi, attends, Christo, qui est tout ça.
C'était il y a longtemps.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas tout jeune.
Il a eu sa carrière américaine.
Je vais vous parler d'un essai que j'ai lu récemment. J'ai rencontré l'autrice, justement. L'autrice, c'est Sylvaine Perragin. Le bouquin, c'est Le salaire de la peine, le business de la souffrance au travail. Bon, c'est pas un sujet hyper joyeux, hein, mais c'est le constat est absolument dingue. Le bouquin est hyper intéressant. C'est un peu une sorte de souffrance en France de 2.0. Souffrance en France, c'est ce livre à la fin des années 90, hein, qui avait mis sur le devant de la scène le fait de la souffrance au travail. Et après, ça avait connu une sorte de climax, hein, cette situation dans les années 2006, avec les suicides chez France Télécom, ouais, et Renault notamment. Et en fait, ce que raconte Sylvaine Perragin, qui est une psychothérapeute d'entreprise, voilà, qui aide les entreprises avec ce truc de la souffrance, c'est qu'en fait la souffrance au travail est devenue un business. Et en fait, il y a des cabinets de RH, qui sont les mêmes cabinets de RH qui ont fait de l'optimisation pour aider à optimiser et à rendre les salariés plus efficaces.
Vendent maintenant
la bienveillance sur le milieu du travail, le fait le bien-être des salariés.
Les salles de billard et les baby-foot.
Et tout cet enrobage de communication finalement qui sont là pour par le bien-être. Optimiser encore le rendement des salariés. Et en fait, le constat de Sylvaine Perragin et son bouquin est absolument incroyable parce qu'elle est, les travaux des universitaires sont très bien, mais elle n'est pas universitaire. Elle est sur le terrain depuis 20 ans.
Il y a des témoignages, en fait,
c'est,
coup, tout ça.
Et puis, voilà, des constatations, voilà, de ce business concret, absolu qui n'est pas du tout là pour. En fait, ce qu'elle dit, c'est une destruction du travail, en fait. C'est pas une destruction de l'emploi, c'est une destruction de ce qu'est le travail et de l'individu, évidemment, du travailleur qui va avec. Enfin voilà, moi je vous conseille parce que c'est un livre qui se lit très bien, qui n'est pas du tout optimiste, mais. Franchement, c'est.
Donc après photographe, par exemple, c'est parfait. Après The Walking Dead, photographe, on lit ça.
Et là, t'es bien. Et là, t'es bien.
Elle en est bien. Ok.
Et là, tu lances Clit, moi, pour changer.
Voilà. Et Highlander pour se reposer après. Heureusement.
Le 1, le 2.
Il y a un ordre, les gars. Notez bien tout le monde, il y a un ordre de jeu à faire. D'abord, vous allez au fond du trou. Vous rebondissez.
On va s'arrêter là. Merci à Solène Moulin qui est à Réal. C'est super cool. Merci. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine sur libération.fr, sur binge.audio et sur les internets. Ciao.